Excellent réveil à tous et on débute avec le journal de Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est un volte-face diplomatique inattendu, la fin des pourparlers entre les États-Unis et les talibans après plus d'un an de négociations. Donald Trump en a décidé ainsi hier après l'attentat à Kaboul jeudi dernier. L'ancien président afghan Hamid Karzai plaide pour un dialogue afin de sortir de la guerre. Valérie Crova l'a rencontré pour France Culture.
Et puis en France, la ministre de la Santé Agnès Buzyn reçoit les syndicats et le collectif Interurgence pour tenter de calmer le mouvement de grève qui dure depuis 6 mois. Quelques solutions envisagées sont déjà appliquées dans certains services. C'est le cas à l'hôpital Bichat à Paris où s'est rendue Véronique Julia.
Un procès d'esclavage moderne aujourd'hui au tribunal de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Un couple est soupçonné d'avoir réduit en esclavage un homme venu du Burundi pendant 10 ans. Un couple qui a déjà côtoyé la justice dans le passé pour des faits similaires. Récit à venir de Fiona Mogadam. Et dans une dizaine de minutes, Guillaume, la question du jour.
Vous allez regarder les petits pois autrement. Pourquoi le génome du petit pois pourrait révolutionner notre alimentation? On posera la question à Patrick Winker, il est directeur du Génoscope.
L'attentat de jeudi dernier à Kaboul, revendiqué par les talibans, a donc conduit à la fin des négociations entre le groupe et les États-Unis. L'accord était pourtant proche, il portait sur le retrait progressif des troupes américaines du pays. Les talibans ont réagi hier, promettant que les États-Unis vont, je cite, « souffrir plus que tout autre après l'arrêt des négociations ». À Kaboul, en tout cas, on souhaite au plus vite un cessez-le-feu. C'est aussi la volonté de l'ancien président Hamid Karzai que vous avez pu rencontrer, Valérie Crova.
Dans sa résidence ultra sécurisée de Kaboul, Hamid Karzai consulte. L'ancien président afghan est un spectateur engagé et favorable à un dialogue avec les talibans, ses frères afghans comme il les appelle, mais contre l'organisation de l'élection présidentielle prévue à la fin du mois. La priorité pour Hamid Karzai est d'abord de trouver un accord pour sortir de la guerre, avant d'organiser un scrutin. La décision de Donald Trump de rompre brutalement les pourparlers engagés avec les talibans est une occasion manquée, dit-il, et Hamid Karzai de dénoncer le jeu trouble du locataire de la Maison Blanche.
Nous voulons que les Américains reprennent les pourparlers, mais nous leur disons également qu'ils doivent travailler avec transparence. Le président Trump a tweeté qu'il avait invité les talibans et le gouvernement afghan à Camp David dans le plus grand secret. C'est un manque de transparence. Les Américains doivent reprendre les pourparlers et le faire en toute honnêteté vis-à-vis des Afghans.
Selon le chef de la diplomatie américaine, les États-Unis pourraient revenir à la table des négociations à condition que les talibans s'engagent à ne plus commettre d'attentats. Ce à quoi ces derniers ont répondu par un avertissement. Nous poursuivrons notre djihad tant que les Américains n'auront pas retiré leurs 14 000 soldats encore en Afghanistan. La paix n'est donc pas pour demain.
Le reportage de Valérie Crova. Au Burkina Faso, 29 personnes ont été tuées hier après l'explosion d'une bombe dans le nord du pays. L'attaque n'a pas été revendiquée. Un sommet des chefs d'État sur la sécurité dans la région doit avoir lieu le 14 septembre à Ouagadougou. De son côté, le pape François, lui, termine sa tournée dans le sud de l'Afrique après le Mozambique et Madagascar. Dernière étape aujourd'hui sur l'île Maurice, un pays qui, à l'inverse des deux précédents, n'est pas touché par la pauvreté. Ce sont plutôt les tensions internes, communautaires qui frappent cette île, Bruce de Galzin. L'île Maurice qui compte également plusieurs religions parmi son million d'habitants.
La majorité de la population est désormais hindoue sur l'île Maurice, 52%, alors que les catholiques représentent un peu plus du quart des Mauriciens et les musulmans 17%. Comme sa sœur insulaire, la Réunion, l'île Maurice se veut terre d'accueil, interreligieuse, multiculturelle, mais les tensions peuvent être présentes au point qu'un conseil des religions a été créé il y a près de 20 ans pour promouvoir le dialogue, des tensions qui, selon le journaliste mauricien Jean-Luc Moutoussamy, sont d'abord d'ordre politique.
C'est la politique qui, dans les propos qui sont tenus, dans les enjeux électoraux, ces questions ethniques remontent, ethniques et religieuses. Il y a aussi des cas isolés, des gens qui à la maison, derrière leur mur, parlent toujours de Malbar pour parler d'hindous, de Lascar pour parler de musulmans, ou de Sinois pour parler de gens de la communauté chinoise. On sent qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement réglées.
Des tensions communautaires donc, dans un pays où le pape va sans doute insister sur le vivre ensemble, mais s'adresser aussi aux catholiques. En perte de vitesse, le Vatican rappelle et regrette la dépénalisation de l'avortement il y a 7 ans, autrement dit sa perte d'influence. Il n'y a à l'île Maurice qu'une centaine de prêtres, à peine 7 séminaristes, des vocations qui s'écroulent.
Le reportage de Bruce de Galzin. Au Royaume-Uni, les députés vont à nouveau voter aujourd'hui sur des élections anticipées. Elles sont ardemment souhaitées par le Premier ministre Boris Johnson en vue d'éviter un report du Brexit. Un report qui n'est pas envisagé par la France en l'état actuel des choses. On ne va pas recommencer tous les trois mois, affirme le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Le ministre qui se rend d'ailleurs aujourd'hui en Russie avec sa collègue de la Défense Florence Parly. Ils vont rencontrer leurs homologues russes pour la première fois depuis l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 5 ans. Le but de cette venue est d'avancer sur la résolution de cette crise ukrainienne, mais elle marque aussi, Bertrand Gaïchet, le changement de stratégie d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie.
En envoyant à Moscou ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Emmanuel Macron accélère la politique d'ouverture vis-à-vis de la Russie mise en œuvre dès le début du quinquennat, avec désormais l'espoir de progresser rapidement sur l'Ukraine, le nouveau président Zelensky semblant déterminé à régler le conflit qu'il oppose aux séparatistes pro-russes soutenus par le Kremlin. La France veut saisir cette opportunité, Emmanuel Macron l'a répété ces dernières semaines, en particulier lors du G7, mais aussi en recevant le mois dernier Vladimir Poutine à Brégançon, où il a obtenu des signaux encourageants de son invité. Cette volonté de rapprochement avec le Kremlin confirme que Paris reprend la main sur la diplomatie européenne en martelant que la place de la Russie est en Europe et que la pousser au dehors serait une profonde erreur. Jean-Yves Le Drian estime que la défiance envers Moscou n'apporte rien. Encore faut-il que Vladimir Poutine ne continue pas à considérer cette ouverture comme un signe de faiblesse. Ainsi, la question de la restitution à l'Ukraine de la Crimée annexée par la Russie paraît désormais tabou.
Bertrand Galichet, Vladimir Poutine qui va connaître aujourd'hui le résultat des élections locales qui se sont tenues dans le pays hier. Un scrutin test pour le président après un été marqué par les manifestations de l'opposition. On s'oriente déjà vers une très forte abstention proche de 80%, notamment à Moscou.
Vous écoutez les matins de France Culture. Il est 7h07 et c'est la suite du journal de Maxime Fayolle. Après 6 mois de grève aux urgences, la ministre Agnès Buzyn va annoncer un plan d'action au collectif Interurgences cet après-midi.
Et selon les Échos, l'enveloppe serait de 600 millions d'euros sur 3 ans. Plusieurs pistes sont envisagées, comme la vidéo-assistance ou bien une filière d'admission directe pour les personnes âgées. Des solutions qui existent déjà ici et là, notamment à l'hôpital Bichat à Paris, où le service d'urgence est bien moins encombré qu'ailleurs. Véronique Julia s'y est rendue pour France Culture.
Regardez, ça c'est les urgences de Bichat. Il n'y a jamais un patient dans les couloirs, parce qu'on considère qu'un patient dans un couloir, c'est de la maltraitance.
Aux urgences de l'hôpital Bichat, on reçoit jusqu'à 340 patients par jour. Et pourtant, ici, on entend peu de bruit et on voit peu de patients en attente. C'est vrai, même lors des épidémies de grippe, précise fièrement le chef du service, Enrique Casalino. Son secret, réduire les circuits d'abord, avec des infirmières à qui on délègue plus d'initiatives.
Lorsqu'un patient arrive avec une entorse d'une cheville, les infirmières sont capables d'administrer les antalgiques et elles sont capables de faire la prescription de la radio. Lorsque le médecin voit le patient, il a sa radio dans la main. C'est un moyen d'accélérer la prise en charge d'un patient.
Ici, on évite toujours d'allonger les patients sur des brancards. Le plus possible, on les maintient assis. C'est plus dynamique et plus sain, insiste le médecin, pour qui la fluidité de l'activité passe finalement par une multitude de petites solutions et notamment une collaboration très dense avec les EHPAD et la médecine de ville. Car un retour rapide à domicile, c'est un lit qui se libère plus vite dans l'établissement. Une maison de santé installée tout récemment au sein même de l'hôpital va permettre aussi d'éviter des recours aux urgences.
Lorsque les patients sont bien suivis en ville, ils viennent moins à l'hôpital.
Une spirale vertueuse, semble-t-il, car en contrepartie de cette organisation, le service subit, d'après son chef, moins de tensions et moins de violences. Un patient mieux traité, dit-il, est un patient moins agressif.
Le reportage de Véronique Julia à l'hôpital Bichat à Paris. Autre dossier que veut régler le gouvernement, celui des pesticides et de la distance entre les cultures et les habitations. Une consultation va s'ouvrir aujourd'hui sur Internet. L'Agence nationale de sécurité, l'ANSES, préconise une distance de sécurité de 5 à 10 mètres. On est loin des distances voulues par plusieurs dizaines de maires qui ont pris des arrêtés, notamment la maire de Revet-des-Brousses dans les Alpes de Haute-Provence, Brigitte Reynaud, qui dénonce une consultation inutile.
C'est une énième consultation. On en a marre des consultations. Allons au fait. On a besoin d'action maintenant. Plus de consultations. On sait ce qu'il faut faire. J'ai entendu que la distance proposée de protection était de entre 5 et 10 mètres. Et moi, je dis, de qui se moque-t-on ? Les maires ont pour compétence, ont pour devoir de protéger la population et de leur donner une eau potable. Pourquoi ne pourrait-il pas leur avoir la compétence de leur donner un air respirable et des produits consommables sans que ça les empoisonne ? Il faut arrêter de voir l'intérêt financier et de ne pas voir l'intérêt humain.
La maire de Revet-des-Brousses dans les Alpes de Haute-Provence, Brigitte Reynaud avec Delphine Evenou. Une audience pour trafic d'êtres humains aujourd'hui au tribunal correctionnel de Nanterre. C'est un ancien ministre du Burundi et sa femme qui sont soupçonnés d'avoir réduit en esclavage l'un de leurs compatriotes qui vivait avec eux dans les Hauts-de-Seine. La victime a pu être libérée l'an passé et elle a été découverte totalement par hasard, Fiona Mogadam.
Lorsqu'un ouvrier fait des travaux dans la maison du couple et remarque un homme très affaibli, amaigri et qui sent particulièrement mauvais, un signalement est fait à la police qui quelques jours plus tard se rend sur place. Les policiers découvrent alors l'homme qui est logé dans la cave de la maison. Le couple est placé en garde à vue. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, raconte avoir été recrutée au Burundi par l'ancien ministre et sa femme. Ils avaient besoin d'un employé pour s'occuper pendant quelques mois d'un de leurs fils handicapés. Mais une fois en France, les papiers de méthode, c'est son prénom, lui sont confisqués. Il sort rarement de la maison, travaille tous les jours, dort peu, est à peine nourri et ne peut appeler sa femme et ses enfants restés au Burundi qu'une fois par mois. Une situation qui dure pendant 10 ans. L'ancien ministre, qui a aussi été ambassadeur à l'UNESCO, et sa femme risquent désormais 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende pour traite d'êtres humains. Ce n'est pas la première fois qu'ils comparaissent pour une affaire du type. En 2007 déjà, ils avaient été accusés d'avoir exploité deux de leurs nièces pendant plusieurs années. Condamnés en première instance, le couple avait été relaxé en appel. Mais 5 ans plus tard, pour cette même affaire, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir de législation qui permette de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé.
Précision de Fiona Mogadam sur ce procès qui se tiendra donc aujourd'hui au tribunal de Nanterre. Le temps de ce lundi, de la pluie sur le nord et la Bretagne, du brouillard matinal sur une grande majeure partie du pays. Le soleil, lui, domine sur le sud-est. Les températures minimales, elles sont fraîches ce matin de 3 à 8 degrés, Guillaume Erner.
Merci Maxime Fayolle.